Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous en arrivons à méditer sur le sacerdoce du Christ. Et saint Thomas va étudier trois qualités du Christ à cette occasion. Premièrement, le Christ est-il prêtre? Deuxièmement, est-il victime? Et troisièmement, est-il roi? Sur la royauté, il insistera peu, parce que ce n'est pas son sujet, c'est surtout prêtre et victime. Mais il est important de constater que ces deux qualités de prêtre et de victime sont inséparables de sa royauté et réciproquement. C'étaient les trois grandes qualités que Mgr Lefebvre rappelait constamment. Ce sont elles qui fondent notre sainte religion qui est chrétienne, qui n'est pas une religion purement divine, de rapport avec Dieu, mais qui est de rapport avec Dieu à travers le Christ. Ce sont ces trois vérités également qu'il est important de rappeler dans les épreuves actuelles de l'Église. Ce sont elles qui sont niées. Quand on nie Jésus-Christ, bien sûr, on peut nier sa divinité, ça c'est tout à fait radical. Mais les modernistes, les modernes en général, vont fausser son caractère sacerdotal, son caractère de victime et surtout sa royauté. Mais faussant sa royauté, ils vont fausser son sacerdoce, parce que c'est le sacerdoce d'un roi et c'est la royauté d'un prêtre. Ils faussent également son caractère de victime, qu'il noie dans l'amour. À cette occasion, saint Thomas va faire de très belles remarques et va commencer l'étude du sacrifice, de la rédemption. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez prêté attention à cet enseignement que donne saint Thomas à l'occasion de son étude sur notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut voir que l'étude qu'il fait sur la messe, alors on oublie une partie, et alors que saint Thomas a voulu faire une grande unité. Et si je vous dis cela, mes bien chers frères, c'est pas parce que je me fais une réflexion que je vous communiquerai comme cela. C'est parce que cet oubli, ces méconnaissances sont la cause de la situation actuelle de tant de traditionalistes qui, tout en croyant, en étant persuadés être des grands défenseurs du saint sacrifice de la messe, passent en réalité à côté de beaucoup de choses, hélas. Ce n'est pas que j'ai envie de revenir perpétuellement sur la fraternité Saint-Pédis, puisqu'il y en a un certain nombre parmi vous qui m'écoutez et qui ne connaissent pas la fraternité Saint-Pédis, que Dieu a appelée en dehors d'elle. Et peut-être surtout vous qui m'écoutez sur Internet, le bon Dieu vous a guidé. Malgré tout, je dois faire attention à toutes mes ouailles et tout en parlant de Dieu à ceux qui ne se préoccupent pas de la fraternité Saint-Pédis. Je dois également parler à ceux qui l'ont connu, qui ont vécu ce drame de cette chute, de ce divorce et qui peuvent se poser des questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Et surtout, comment faut-il faire pour que cela ne se reproduise pas? Parce que chez nous, bien entendu, nous importons dans la fidélité catholique les problèmes que nous avons connus avant. Et nous devons être vigilants. Notre Seigneur est-il prêtre? Saint Thomas répond, l'office propre du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et le peuple. Et cela va signifier, entraîner deux choses. Tout d'abord, il transmet au peuple les biens divins. Deuxièmement, il offre à Dieu les prières du peuple et il satisfait à Dieu pour les péchés du peuple. Bien entendu, cela s'applique à notre Seigneur en tout premier. Tout d'abord, il transmet au peuple les biens divins. Et là, saint Thomas monte tout de suite très très haut. Parce que le Christ nous rend participants de la nature divine. C'est l'offertoire de la messe, que vous connaissez bien, mes bien chers frères. Ô Dieu qui nous avait donné par le mystère de cette eau et de ce vin, qui avait daigné partager notre humanité, donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin de prendre part à la divinité. C'est au moment où le prêtre verse la goutte d'eau dans le vin du calice. Goutte d'eau qui va être consacrée avec le vin, qui ne va plus faire qu'un avec le vin et qui va être consacrée. C'est symbolique, bien entendu. Mais ces symboles sont très expressifs. Et donc, saint Thomas nous fait monter tout de suite très haut. Et je pense qu'il y a là une vérité très importante à rappeler. Monseigneur Lefebvre nous a montré que la vie chrétienne est une vie mystique, même pour les simples chrétiens, même pour les petits chrétiens. Bien sûr, quand on parle de vie mystique, on craint. On craint que chacun en fasse un peu à sa guise. Et donc, on veut contrôler. Et on a tellement bien contrôlé qu'on finit par annihiler, anesthésier la vie mystique du chrétien. Il faut oser dire, et ça je pense que les convertis s'en rendent compte. Ils se rendent compte qu'il y a un rapport direct de leur âme avec Dieu. Et c'est à nous de leur rappeler, à nous les prêtres, à nous les enseignants, de leur rappeler que non seulement il y a un rapport direct avec Dieu, mais qu'ils ne doivent pas hésiter à donner cette réponse personnelle à Dieu et que Dieu s'adressera personnellement à eux. C'est très important cela. Et pourquoi cela? Parce que justement, Jésus-Christ est prêtre. Et que, étant prêtre, il communique ses richesses. Et la richesse du Christ, c'est Dieu, c'est lui. C'est lui le Verbe qui est Dieu. Et l'action de notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose d'infaillible. Vous allez me dire, si elle était infaillible, il n'y aurait jamais de péché, et jamais aucun homme ne tomberait dans le péché, ne se séparerait du Christ. C'est nous qui sommes faillibles. Saint Paul dit que nous portons des trésors dans des vases de terre, fragiles, cassables. Et donc, si nous osons croire à la puissance du sacerdoce du Christ, à ce moment-là, nous avons le remède à notre fragilité. Le Christ est prêtre, donc, parce qu'il transmet au peuple les biens divins. D'où son nom de sacerdoce, celui qui donne le sacré. Monseigneur Lefebvre nous a fait un écrit, pour une fois c'était un écrit et pas seulement une conférence, sur le sacré, le sacrement, le sacrifice. Je vous en parle souvent, parce que il nous a vraiment fait entrer dans le sacré, dans ce côté mystique. Il n'a jamais employé le terme mystique, ou très rarement, mais sacré, oui. Donner le sens du sacré. Vous allez me dire, mais pourquoi je cite toujours Mgr Lefebvre ? Parce que justement, c'est un homme envoyé par Dieu pour cela. Dieu tire le bien du mal, et ces terribles épreuves de l'Église, Dieu a voulu qu'elles aient pour conséquence une plus grande richesse divine dans la vie de ceux qui se sépareraient du modernisme, qui ne se laisseraient pas entraîner dans le courant moderne de l'Église. C'est là le bien que Dieu tire du mal. Et c'est Mgr Lefebvre qui a été chargé de cela. Et c'est pour ça que je vous le rappelle. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été mon évêque. Il avait une mission dans l'Église. Et cette mission, elle est liée au sacerdoce, pas seulement matériellement, mais au sacerdoce du Christ. Il a donné aux prêtres le sens de leur sacerdoce, parce qu'il leur a donné le sens du sacerdoce du Christ. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça a été un drame pour beaucoup de prêtres, avant le Concile, de ne pas savoir pourquoi ils étaient prêtres et de ne pas savoir ce qu'est le prêtre. On a fait du prêtre un homme préoccupé des hommes, en tout premier, alors que le caractère du prêtre est divin. La deuxième caractéristique du prêtre, en tant que médiateur, c'est d'offrir à Dieu les prières du peuple et de satisfaire à Dieu pour les péchés. D'où cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire du Saint-Esprit, hein, transmise à saint Paul qui nous la transmet dans l'Épître aux Hébreux. Tout grand prêtre pris d'entre les hommes est établi en faveur des hommes dans ce qui a rapport à Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Et il va développer cela. Saint Paul va montrer que les prêtres humains ont leurs limites, sont obligés de satisfaire pour eux avant de satisfaire pour le peuple, alors que Jésus-Christ, lui, n'a pas eu à satisfaire pour soi-même et qu'il satisfait pleinement pour le peuple. Il est le vrai grand prêtre. Le Christ est roi. C'est une remarque que fait saint Thomas, il se fait une objection. L'objection lui dit, bon, s'il est prêtre, il n'est pas roi, s'il est roi, il n'est pas prêtre, il ne faut pas tout mélanger. Et saint Thomas répond, chez les hommes, on ne mélange pas tout parce que les richesses de Dieu sont tellement grandes qu'aucun homme ne peut toutes les avoir. Encore que dans l'Église, les évêques sont à la fois prêtres et rois. Bon, des petits rois, si vous voulez. Enfin, ils participent au sacerdoce du Christ et ils participent à la royauté du Christ. Les deux. Donc, bien que saint Thomas fasse une remarque relativement courte, elle a beaucoup de poids, parce qu'il appartient au roi de régir et de conduire les membres de son royaume à leur fin. Leur fin, c'est Dieu. Et notre Seigneur va donc exercer son sacerdoce de façon royale, et il exerce sa royauté de façon sacerdotale. Ce qu'il transmet à son peuple, il le transmet comme roi, et sa royauté, c'est de transmettre comme prêtre les richesses de Dieu au peuple, et pour cela, bien entendu, d'offrir les prières et les sacrifices. Troisièmement, notre Seigneur est victime. Et là, évidemment, nous avons une caractéristique, une qualité du Christ qui est absolument indispensable, dont il est indispensable de parler. Saint Thomas d'Aquin commence à étudier ce qu'est une victime à cette occasion, et donc ce qu'est un sacrifice. Et il prend tout simplement l'Écriture sainte, parce que dans l'Écriture sainte, il y avait plusieurs types de sacrifices. Alors il commence par dire, le sacrifice visible est un signe du sacrifice invisible. Là encore, vous voyez, il y a quelque chose de mystique, de divin. Mystique, ça veut dire caché, et il y a une réalité plus vraie que les apparences, caché sous les apparences. Là encore, il est très important, je vous le rappelle. Parce que si on ne regarde que les apparences, premièrement, on ne pénètre pas dans l'esprit, dans le cœur, et petit à petit, on se dessèche. Il est possible de se dessécher avec le saint sacrifice de la croix, avec le saint sacrifice de la messe, quand on s'arrête au signe extérieur et qu'on ne va pas à l'intérieur. Regardez tous ces juifs, tous ces pécheurs qui maudissaient notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix. Voilà des gens qui n'ont pas voulu entrer dans les richesses du sacerdoce et du Christ, et qui par conséquent n'arrivent pas à profiter, à entrer dans le mystère. Le vrai sacrifice, c'est un cœur broyé, selon le psaume 51. C'est pourquoi tout ce qui est offert à Dieu en vue de porter l'esprit de l'homme vers Dieu est appelé sacrifice. Et donc notre Seigneur va nous porter vers Dieu. L'homme a besoin du sacrifice, le sacrifice a trois motifs si vous voulez. Premièrement, la rémission des péchés. Deuxièmement, l'état de grâce et d'union à Dieu. Troisièmement, l'union à Dieu dans la gloire. Premièrement, la rémission des péchés. Saint Thomas va l'étudier. J'y reviendrai, je ferai un deuxième sermon sur ce sujet. C'est tellement important. Premièrement, la rémission des péchés. Parce que Jésus-Christ trouve, est descendu sur terre, parce qu'il trouve une humanité pécheresse. Il y aurait pu avoir un sacerdoce qui soit un sacerdoce pour des hommes saints qui ne sont jamais tombés dans le péché. Et ce sacerdoce aurait été très beau. Mais l'homme étant tombé dans le péché, notre Seigneur qui vient le sauver trouve un peuple pécheur, profondément pécheur, facilement tourné vers le péché, avec une blessure qui est très difficilement guérie et qui n'est jamais complètement guérie, blessure qui le fait pencher vers le péché. Et voilà pourquoi le sacrifice est d'abord, même si ça n'est pas la fonction la plus noble et la plus importante, c'est la première fonction, premier fruit du sacrifice, réparer pour le péché. Et puis, ensuite, les deux autres motifs du sacrifice, mais c'est important, hein, mes bien chers frères. C'est important parce que si nous profitons de la messe, si nous assistons à la messe, mais que nous ne cherchons pas les deux autres fruits, alors nous passons à côté des richesses. Et les deux autres fruits, c'est la grâce c'est-à-dire la vie divine en nous, et l'union à Dieu. L'union à Dieu ici-bas, l'union à Dieu dans la gloire. Voilà ce que nous devons chercher. Or, tous ces bienfaits nous sont venus à travers l'humanité du Christ. Le péché, il s'est livré pour nos péchés, dit l'Écriture sainte. La grâce, la grâce qui sauve. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Qui lui obéissent, c'est-à-dire qui lui sont soumis, qui lui sont unis. Il s'agit de la grande obéissance et non pas de l'obéissance au sens strict. Et troisièmement, la perfection de la gloire. Voici que nous possédons, dit l'Écriture sainte, par le sang de Jésus, l'accès assuré dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la gloire céleste. Saint Thomas termine sur le caractère volontaire de la mort du Christ en posant une objection. On ne peut pas être à la fois prêtre et victime puisque le prêtre met la victime à mort. Et Saint Thomas dit il y a deux aspects dans le sacrifice. Il y a la mort qui est l'aspect matériel et puis il y a l'offrande de cette mort. Les bourreaux, en tuant notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas été prêtres, parce qu'ils n'offraient pas. Notre Seigneur, en acceptant sa mort, est prêtre, parce qu'il l'offre. Il y a une différence entre la mort de Jésus et celle des martyrs. C'est justement, et c'est ça qui est important, les martyrs ne peuvent pas échapper à la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait échapper à la mort. C'est pas pour autant qu'il s'est tué, c'est qu'il a choisi de ne pas s'opposer à la mort. Et cela est le signe qu'il l'offre volontairement, pleinement à son Père. Je vous laisse, mes bien chers frères, avec ces splendides et très riches considérations de saint Thomas d'Aquin et de Mgr Lefèvre. Faites-en l'objet de vos méditations toute cette semaine. Chaque matin, c'est un conseil que je vous donne, chaque matin, méditez sur le sacerdoce du Christ, méditez sur le sacrifice du Christ et posez-vous la question, comment vais-je profiter des fruits du sacerdoce, des fruits de la victime? Comment vais-je, comme le dit l'Écriture sainte, obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, lui être uni pour le suivre dans la gloire, après l'avoir suivi dans la grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.